heures. Voilà, et encore une fois, on remercie les camarades de résistance de nous accueillir. Mais bon, l'heure, c'est l'heure. Et donc, sur cette heure qui reste, ce qu'on propose, c'est de commencer le débat. Ce qu'on demande, c'est que les camarades qui voudraient intervenir lèvent la main, qu'ils se présentent, si possible, lorsqu'ils interviennent, et de faire le plus court possible, 2-3 minutes, si possible, de façon à ce qu'il puisse y avoir le plus de questions, le plus d'interventions, et qu'après, Raoul puisse répondre, que ce soit qu'on fasse des réponses groupées ou coup par coup, ça on verra en fonction des possibilités. Donc, je ne sais pas s'il y a des camarades qui souhaitent poser des questions. On va donner. C'est vrai que c'est le privilège des camarades de la distance de commencer peut-être. Hein.
Moi, j'avais quelques questions très factuelles et très courtes à poser. La première, c'est, j'ai pas bien compris, avant que se déclenche la grève des 9 jours, quand vous avez été dizaines à faire la tournée des autres entreprises, des étudiants, que vous avez accueilli des chômeurs, comment ça se passait concrètement dans l'entreprise, puisqu'il n'y avait pas de grève, comment vous avez pu faire ça, et comment on vous a laissé, en gros, faire ça? Ça, c'était une première question. La deuxième, c'est sur la couverture médiatique que vous avez pu avoir. Vous avez parlé à un moment d'une conférence de presse, et je voulais en savoir un petit peu plus, c'est-à-dire que quand vous aviez des procès, et même aujourd'hui, quand vous êtes à l'Assemblée et que vous faites des déclarations, quel type de couverture vous avez? Est-ce qu'elle est locale, plus fédérale, enfin plus grande? Et qu'est-ce que vous pensez de la manière dont vous avez été couvert par les médias? Qui a permis donc non seulement sur le plan local aux prisonniers de savoir un certain nombre de choses, mais plus largement. Et est-ce que ça donc a fait des petits de cette manière-là? Une troisième petite question factuelle également sur l'écoulement des carrelages, des céramiques que vous faites avant que vous soyez véritablement, je dirais, en coopérative de manière quasiment officielle, quand vous avez été dans toute la période autogérée parce que il y avait eu cet avis d'expulsion, comment vous avez vendu, écouler votre production? Et enfin, est-ce qu'au début de votre occupation, ça a été uniquement et combien de temps sur le fait qu'il y avait eu un avis d'expulsion et que donc vous y résistiez, ou est-ce qu'il y avait déjà des premières revendications? Voilà, excusez-moi.
Voy a tratar de contestar breve para no olvidarme.
Je vais essayer de répondre brièvement pour pas oublier les questions que vous posez, les camarades.
Respecto de lo primero, mientras nosotros recorríamos qué pasaba en la fábrica, claro. Nosotros los primeros meses montamos una carpa, un campamento en las afueras de la fábrica, donde organizábamos las actividades. Como la fábrica, la empresa cerró el gas y provocó que se apagaran los hornos, no podíamos trabajar. Nosotros dijimos, las 8 horas de nuestro trabajo tienen que ser 8 horas de militancia. Y entonces...
¿Antes de la huelga?
Claro.
Antes de la huelga de los 9 días.
Ah, no, antes de la huelga de los 9 días, no. Claro, durante la huelga de los 9 días volvimos a trabajar y se trabajaba con mucha tensión. Porque la empresa preparaba ese, el primer plan le había fracasado y tuvo que empezar a pensar otro. Entonces hubo un intermedio entre la huelga de los 9 días y después el cierre, fueron varios meses intermedio, en el que nosotros seguimos con el trabajo afuera, pero trabajando en la fábrica, digamos, no había huelga. Pero sí funcionaban las comisiones de trabajo para difundir, para participar con otros sectores de la comunidad, bueno, no sé, para el trabajo.
Deux choses. Donc, entre la grève des 9 jours et le lockout définitif, donc il y a eu plusieurs mois qui se sont écoulés, puisque le premier projet de licenciement avait échoué. Et et à ce moment-là, donc, on travaillait donc, sur l'usine, donc avec énormément de tensions. Et les commissions, donc, la commission de diffusion, les presse, la commission de solidarité continuaient à fonctionner, ça nous permettait de poursuivre nos visites. Et après, lorsque le lockout a commencé, donc on avait une tente, une sorte de campement à l'extérieur de l'usine, les grilles étaient fermées, le patron avait fermé fermé le gaz, et donc les fours étaient éteints. Et ce qu'on disait, c'est que ben, nos 8 heures de travail, ça devait être 8 heures de militantisme, et c'est comme ça qu'on a organisé la résistance.
Pero después de esa huelga, fue impresionante el cambio en cada obrero, iba diferente a trabajar. Ya nadie bajaba la vista ante un supervisor, era todo mirar desde arriba y mirar desde un lugar completamente diferente. Ya desde ahí en más, la empresa no pudo controlar más a los trabajadores como querían. Los trabajadores empezaron a controlar a ellos.
Mais après cette preuve de 9 jours, ce qui était assez fantastique, c'est que les travailleurs en fait, sont retournés sur les ateliers avec un esprit complètement différent. Plus personne ne baissait les yeux devant un agent de maîtrise ou un chef. Et au contraire, justement, et c'était plus toute l'entreprise, la direction qui nous contrôlait, mais nous qui contrôlions véritablement la direction.
Il y a quelques anecdotes graciosas que a veces nos llamaban los supervisores, los encargados, nos mandaban a buscar a los delegados, a sindicatos, porque decían que los obreros maltrataban a los supervisores.
Quelques anecdotes assez drôles. Donc, il y avait donc quand on n'était pas sur l'usine, on était sur notre local syndical, qui n'est pas à côté de l'usine, qui est dans le centre de Neuquén. Donc il y avait des agents de maîtrise qui venaient justement en nous disant qu'il fallait à tout prix que les délégués syndicaux viennent. Parce que en fait, les travailleurs maltraitaient les chefs, en fait.
Porque sabíamos que eso iba a tener un desenlace tarde o temprano, no iba a poder ser mucho tiempo así en una fábrica de nada.
Mais on savait de toute façon qu'il allait avoir un dénouement tôt ou tard et ça allait pas. Enfin, la situation ne pouvait pas durer.
Nosotros sí, tuvimos muchas causas respecto de los juicios, tuvimos muchas causas judiciales difíciles, porque nosotros por momentos cuando fue la ocupación nos ocupamos, sacamos a la gente de seguridad, la sacamos afuera, rompimos candados, entramos, es decir, habíamos violado la propiedad privada en todos sus términos, y entonces empezamos a acumular. Bueno, ahí tuvimos un equipo de abogados que también son parte de nuestra corriente, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, en lo que están el compañero Mariano Pedrero, Iván Albianco, Miriam Bregman desde Buenos Aires, pero un equipo de abogados que tenía que hacer magia, más que abogacía, para poder salvar las causas.
Pour ce qui est des procès, effectivement, on a eu un dossier qui a commencé à s'accumuler dans différents tribunaux, à la fois provinciaux et au niveau fédéral, puisque effectivement, on a cassé pas mal de cadenas, on a violé la propriété privée, etc., etc. Donc du coup, ça devenait un peu difficile, un peu compliqué. Et on a eu en tout cas à nos côtés un certain nombre d'avocats, qui sont pour certains des camarades donc, du parti, qui sont d'autres qui sont indépendants au sein du centre de professionnel de défense des droits de l'homme, donc avec Mariano Pedrero, avec Ivana Blanco, avec William Bregman, qui pour la petite anecdote est une des seules avocates qui a en tout cas accusé Bergoglio de complicité avec la dictature militaire, donc ça c'est dernièrement, donc qui a collaboré justement avec la deux années depuis Buenos Aires, et mais des camarades d'avocats qui faisaient plus qu'exercer leur métier d'avocat, c'est un peu de la magie en fait pour aider la lutte et de toute façon ce qu'on ne coule pas complètement.
Pero cada una de las acciones que se presentaba era con movilizaciones enormes. Por ejemplo, nosotros entrábamos al juzgado cuando teníamos que declarar o marcar los dedos, y nosotros decíamos, los verdaderos delincuentes son estos jueces, y hablamos peor de ellos, y la gente se movilizaba junto a nosotros, eran miles en la puerta del juzgado, y muchas de esas causas, en forma impresionante, iban cayendo. No se presentaban testigos, se iban cayendo, porque sabían que mientras más nos presionaban, más solidaridad se generaba, entonces era peor. Y más desprestigio tenían los jueces y todo, o sea, nadie quería tomar las causas de esa mano.
Mais surtout, la clé en fait, c'était que chaque fois qu'on devait se présenter à un tribunal, chaque fois qu'on devait se rendre à un commissariat pour les empreintes digitales, etc., etc., en fait, c'était avec des mobilisations très importantes. À la fois des camarades des anonymes, à la fois des travailleurs séralistes, mais aussi la population en général en fait, qui nous appuyait. Et quand on rentrait dans le tribunal, et ben, on, les véritables délinquants, c'était les juges, c'était les greffiers, etc. Et progressivement, un peu bizarrement, en fait, l'ensemble de ces procès ont commencé à finir par des, non-lieux, où les témoins ne se présentaient pas. Il n'y avait plus aucun juge, véritablement, qui voulait traiter les dossiers de Zanon, donc ils se faire passer les uns aux autres. Et en fait, parce qu'effectivement, c'était énormément de, pour eux, de discrédit que de nous attaquer, parce qu'on était, très populaires.
Par exemple, algunas resoluciones de la justicia eran. No me quiero estar preocupado, pero eran muy brutales. Por ejemplo, una semana una jueza firmó una resolución en la que dijo que era muy peligroso que la fábrica estuviera en marcha porque estaba operada directamente por los obreros activistas y que podía explotar la fábrica. Que podía explotar por el gas porque no había ingenieros ni había jefes que garantizaran la seguridad. Y entonces mandó una orden, que tenía orden ya la policía, los bomberos y la gente para ir a cortarnos el gas, por ejemplo. Entonces tuvimos una semana que se lo venían todo así y era una orden judicial, por ejemplo.
Mais ça a été effectivement, bon, je veux pas m'étendre là-dessus, mais effectivement assez compliqué. À un moment donné, où il y avait une juge qui avait émis une résolution qui disait que le fait que l'usine soit gérée par nous autres les travailleurs, justement. Qu'il y avait un risque avec le gaz, etc., que ça explose, puisque comme il n'y avait pas d'ingénieur, il n'y avait pas de chef pour nous contrôler, en fait, évidemment, il y avait un risque d'explosion, un risque sur la sécurité, et donc il y avait un ordre d'expulsion, et donc il y avait donc, les flics et les pompiers qui, en Argentine, en plus, sont des militaires, qui avaient ordre, en fait, de venir couper le gaz.
Nosotros dijimos, si nos cortan el gas, nos cortan el oxígeno, nos asfixian. Entonces dijimos, no, tomamos la decisión en la asamblea de hacer una guardia alrededor de donde estaba la entrada de gas y que no íbamos a permitir que vinieran a cortarnos porque era, y le dijimos a toda la gente, entonces toda la gente decía, no, déjenlos trabajar. Pero a su vez, nosotros convocamos a nuestros amigos de la universidad y entonces hicimos en la fábrica un desfile de ingenieros que vinieron a pasar por la fábrica y entonces a decir a toda la prensa que estaba todo muy bien. Y era un desfile de ingenieros de la universidad diciendo que estos trabajadores están haciendo muy bien las cosas.
Et donc on savait pertinemment que nous couper le gaz, c'était nous couper les lux, c'était nous couper l'oxygène. Et donc par conséquent, on a décidé de mettre sur pied une garde ouvrière spécifique pour justement les robinets de gaz qui arrivaient sur la zone industrielle. Et avec également les gens du coin qui disaient aux flics, aux pompiers, etc., avant de bien laisser les travailler, le travail, c'est leur droit. Et parallèlement à l'usine, avec les profs de l'université du Comahue, donc les profs d'ingénierie, justement, on a organisé un véritable défilé d'ingénieurs, enfin de prêtres ingénieurs, qui, devant la presse, justement, certifiaient, attestaient, témoignaient que les conditions de sécurité étaient excellentes, que le travail était fait dans les meilleures conditions, et qu'il n'y avait absolument aucun risque d'explosion, ni pour la communauté, ni pour l'usine.
Cinco días después de la solemne déclaration judicial de la jueza, hace una solemne declaración nueva que decía que estaba todo muy bien en Sanón. La misma.
Y cinco días después, la misma juge que había hecho esa declaración solennelle en disant que la situación était hors control, que la explosión était imminente y que fallait tout arrêter, cinco días después, la misma juge dit très solennellement qu'en fait, il n'y avait absolument aucun problème y que le gaz ne devait pas couper.
Relación de fuerzas.
Es una question de rapport de force.
Y así pasó con muchas causas también. Con muchas causas fueron parecidas, es decir, con movilizaciones enormes se iban logrando.
Entonces, hay que ver en otros procesos, efectivamente, había a cada vez una movilización muy importante, y en un lugar, el dossier estaba en guerra.
Respecto de la cobertura mediática, esencialmente los medios alternativos cubrían, pero los medios normales, patronales, y siempre venían a cubrir las noticias sensacionalistas. Entonces también usábamos eso.
Y donc pour ce qui est la couverture médiatique, on avait utilisé les médias alternatifs surtout, mais pour ce qui était des journaux, de la télévision, enfin la presse patronale bourgeoise, évidemment ils étaient beaucoup plus intéressés par tout ce qui était plus sensationnaliste, mais ça aussi on l'a utilisé à notre profit.
Por ejemplo, cuando dijeron que ya estaba la orden de desalojo, muchos periodistas de derecha y de medios de derecha vinieron con una sonrisa a decir ya está la orden judicial, no tenemos nada para hacer. Entonces vinieron muchos a esa conferencia de prensa en la que nosotros dijimos, rompimos el papel y dijimos vamos a resistir. Y salió en muchos medios.
Y un momento, por ejemplo, on a eu reçu, un poco avant le 8 avril 2003, on a reçu cet avis d'expulsion définitif, Donc il y avait un certain nombre de journalistes de droite qui sont venus avec le sourire aux lèvres en disant bah, c'est la fin, vous n'êtes pas quitté les lieux. Et justement, donc, ils sont venus à cette conférence de presse à laquelle on avait amené, et quand on a déchiré la vie d'expulsion et qu'on a dit qu'on allait résister à rester dans l'usine jusqu'au bout, évidemment, ça a eu une répercussion nationale, puis c'est passé dans tous les JT, dans tous les journaux, etc.
Venían a cubrir una rendición y se encontraron con una declaración de guerra.
Donc ils venaient couvrir une rendition sans condition des travailleurs, et en fait ils assistaient à une déclaration de guerre.
Por eso eso fue, había momentos en los que había más cobertura y momentos donde tapaban mucho, pero con los medios, por ejemplo, ahí cumplió un rol importante también los medios alternativos, compañeros documentalistas, compañeros militantes, los periódicos de la izquierda, en todos lados, sonaba y entonces eso permitía romper el cerco mediático.
Y donc, il y a eu des moments où la couverture médiatique était plus importante, la couverture médiatique traditionnelle, on va dire, d'autres où les médias essayaient de cacher le plus possible ce qui se passait. Et donc là aussi, les médias alternatifs ont beaucoup servi, que ce soit la presse extrême gauche, mais également la collaboration de camarades, de documentaristes, par exemple, cinéastes, etc., qui nous ont beaucoup appuyés.
Lo de las ventas también fue un tema parecido. Lo de las ventas. Comment vendíamos antes de tener la legalidad de la coopérative.
Et pour ce qui est des ventes, donc voilà.
C'est bueno. Porque no teníamos ningún papel para darlo. Entonces, cuando empezamos a vender en pequeño, compraba la gente, los vecinos. Pero cuando se necesitaba vender en gran escala, porque la fábrica es una fábrica mediana, que produce una buena cantidad, tenían que venir a comprar los corralones. Y ahí, la opción que tuvimos también fue que las madres de Plaza de Mayo nos prestaron su personería jurídica para que pudiéramos vender. Entonces, en las facturas de las cajas de cerámico que salían de Sanón, tenían los pañuelos blancos de las madres de Plaza de Mayo.
Et pour ce qui est donc des ventes, évidemment, c'était une question de solidarité, d'organisation. Donc avant qu'on ait un statut un soit peu légal, justement, puisqu'au début, donc, les ventes, c'était une vente à petite échelle, donc aux gens de la région, de la ville. Et quand on a pu vendre donc, de façon un peu plus importante, non, c'était des camions entiers qui sortaient de l'usine, c'est une usine moyenne. Après, Godoy donnera les chiffres de production, mais c'est assez impressionnant. En fait, aussi, c'est les maires de la place de Mai qui nous ont permis d'utiliser en fait leur personnalité politique, c'est-à-dire leur statut juridique. Donc voilà, et donc pendant un certain temps, les maires de la place de Mai, donc avec les papiers officiels en fait de comptabilité, donc sur lesquels il y a le foulard, donc qu'elles ont toujours beaucoup quand elles sont en public. Donc les maires de la place de Mai, pendant un certain nombre de mois, ont produit du carrelage, du bois de céramique, etc.
Igual nosotros siempre apelamos. Y alrededor de 400.000 metros cuadrados por mes.
Los camarades producen environ 400.000 metros cuadrados por mes en fait, de revêtement céramique y de carrelage. Au tout début, c'était 20.000. En fait,
nosotros, de cada punto, aunque sea pequeño en nuestra lucha, siempre tratamos de tirar una consigna social, siempre tratamos de ligar con el conjunto de la comunidad. Entonces, la gente, el pueblo, la gente común, defendía mucho el tema de que queríamos trabajar. Era tan sencillo como que queríamos trabajar.
Y a chaque fois, on a essayé de lier notre combat, des revendications sociales plus générales, en fait, pour les gens du peuple, pour les gens en général, en fait, ça devenait quelque chose de parfaitement élémentaire. On pouvait travailler, et notre travail, pour eux, c'était effectivement la lucidité au service de la communauté.
Eso se resumía en una consigna que fue muy popular en Neuquén, en la Argentina, que dice: Sanón es del pueblo.
Avec cette revendication qui est devenue très connu en Argentine, très populaire, qui était justement donc Sanón appartient au peuple, Sanón est le peuple.
Desde aquellos años de esta parte, hay una parte de la producción que se aporta a guarderías, a escuelas, a hospitales, y siempre se hace también advirtiendo que no se trata de calidad y no se trata de asistencialismo, sino que se trata de una demanda, de cada vez que donamos un metro cuadrado, 10 o 100 a un hospital, decimos que hacen falta hospitales para toda la gente, denunciamos al gobierno que no hacen los hospitales suficientes. Cada donación es una denuncia.
Et depuis cette époque-là, donc depuis le début, tous les mois, donc il y a une partie de la production qui est destinée justement réellement à la communauté, donc que ce soit des crèches, des écoles, des hôpitaux, et de notre part, on l'a jamais conçu comme de l'assistentialisme. Et chaque fois qu'on livre, que ce soit 100 mètres carrés ou plus de carrelage de revêtement céramique, c'est le même revêtement céramique qu'on produit. On le fait donc avec les travailleurs donc de la les différents secteurs et en dénonçant le fait que les gouvernements, justement, enfin l'incurie gouvernementale par rapport justement à la santé publique, par rapport à l'éducation, et que justement, avec un message politique évidemment qui accompagne les gestes en tout cas qu'on fait de ce dernier.
Nosotros entendemos profundamente que nuestra gestión obrera, o inclusive la forma de cooperativa que hay hoy, solamente es una cuestión de resistencia, esperando mejores momentos para que los trabajadores seamos dueños del mundo, y no solo de una fábrica.
Y para nosotros, en todo caso, la forma en que funciona nuestra bagarre aujourd'hui, c'est la gestión obrera o la cooperativa, c'est quelque chose de très temporaire, en todo caso, de façon à pouvoir continuer la résistance. Pour se préparer à d'autres moments lorsque les travailleurs, je pense, sont pas simplement propriétaires, entre guillemets, d'une usine, mais réellement les maîtres du monde.
Si dejamos la energía en algo, tiene que ser por una causa grande. Nuestra energía, nuestra vida en algo, que sea por una causa grande.
Au moins, si on joue sa vie dans un combat, que ce soit pour quelque chose d'un peu plus important qu'une simple usine.
Je me suis juste interrompue parce qu'on écoute très très fort, tellement c'est passionnant. Mais comme on est en France, avec toute notre industrie qui coupe quand, un gouvernement qui la laisse partir et qui ne fait pas les lois minimales qu'il avait promis. Donc on est face à un gouvernement traître et ennemi. Et il y a eu en janvier une alliance quand même qui continue entre les étudiants et les salariés en lutte avec la convergence, avec pas mal de boîtes. On voit qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu difficile. Donc, je m'excuse de parler de la situation française, mais nous, Zanon, ça a été un peu un exemple symbolique très fort. Et on voit, en nous écoutant, à quel point un projet pour une entreprise ne peut pas être séparé d'un projet plus global. On voit bien, vous avez vu qu'à la CGT, pour dire, ils ont un projet très bien, d'ailleurs, hein, de reprendre la production de pneus à grève sous forme coopérative, mais on voit bien en écoutant ça. On voit bien en écoutant. C'est bien une coopérative pour les pneus à grève, mais le gouvernement déjà s'y opposera jusqu'au bout, donc il faudra l'arracher par la nuque. On voit bien qu'une proposition pour une usine n'a de sens que si elle est liée à une transformation. Un projet global, un lutte globale, parce qu'en France, il n'y a pas de politique industrielle. Un gouvernement qui laisse partir toute notre industrie et qui poursuit comme des délinquants les salariés en lutte. Donc, je voulais dire, en Grèce, en Espagne, il y a de plus en plus d'expériences de reprise en main des hôpitaux, parce qu'ils sont dans un état où la politique d'austérité a été jusqu'au bout, c'est-à-dire tout est détruit. Donc ils recréent des solidarités par des expériences autonomes alternatives. Pour nous, c'est très important l'exemple de Zanon et de voir sa vie toujours. Et il faut s'interroger pourquoi on a tant de mal à mobiliser les Français, s'ils ne sont pas encore assez dans la crise, parce que qui c'est qui a soutenu les luttes dans l'industrie? Bon, les étudiants, heureusement, mais je n'ai pas vu grand monde, ni Attaque, ni personne, mobiliser, lancer un appel pour qu'on sorte nos usines au mal des salariés. Donc voilà, je ne suis pas défaitiste, hein, je continuerai à me battre, mais c'est important que les citoyens soient unis.
Hemos salido de la lucha de los compañeros de Gutiérrez, lo he mencionado al inicio, y me parecen muy buenas las iniciativas tendientes que los trabajadores no nos resignemos a perder más puestos de trabajo.
Effectivement, on a fonctionné ici, on a été mis au courant, on a su donc par rapport à la lutte des Gutiérrez, et il est parfaitement juste en tout cas que les travailleurs ne se résignent pas à voir leur poste de travail partir en fumée.
Es una lucha completamente legítima y que merece todo nuestro apoyo.
C'est une lutte parfaitement légitime et qui mérite tout notre soutien.
Y podemos discutir el grado, todo lo demás hay que discutirlo porque también yo comparto que si no es con una perspectiva mucho mayor, terminamos entrando en el mismo sistema que está en crisis y caemos el otro día.
Mais je suis d'accord également que si cette par-delà, cette solidarité élément fondamental, disons que sans perspective plus globale, le risque, c'est que face à un système en crise, justement, que les travailleurs qui reprennent l'antiproduction, justement, versent dans la crise le jour après.
O también, por la misma presión del sistema capitalista, pasa lo que ha pasado, por ejemplo, en muchas fábricas en la Argentina cooperativa, que después empiezan a reproducir la misma forma de explotación patronal, donde compañeros que fueron obreros y vivieron una pelea muy heroica, después se transforman en nuevos patrones y contratan con sistemas malísimos para los trabajadores que vienen después.
Ou alors sinon l'autre risque c'est justement que la pression du système capitaliste fait que les entreprises qui sont devenues des coopératives, et c'est le cas parfois en Argentine justement, reproduisent les mêmes mécanismes disons de gestion patronale des usines, et même y compris on voit des entreprises dans lesquelles certains qui étaient avant ouvriers, qui ont mené une lutte héroïque, justement aujourd'hui se comportent comme des petits propriétaires, y compris embauchent des travailleurs en contrat de durée déterminée ou de façon précaire, etc.
Por eso no nos podemos enamorar de la forma concreta, no nos podemos enamorar de la forma concreta ni de la cooperativa ni solo de la autogestión. Hay que tener un objetivo superior y ser consciente de eso, que lo que nos jode la vida es el sistema capitalista.
C'est pour ça qu'on ne peut pas simplement faire du fétichisme simplement de la forme coopérative, de la forme autogestion, et que ce qu'il faut c'est défendre une perspective plus globale, une perspective supérieure, parce que ce qui nous tue au sens littéral du terme, c'est le système capitaliste.
Pero por otra parte se ha transformado en una escuela profundísima donde los trabajadores hemos demostrado lo que somos capaces de hacer, y eso creo que es una gran perspectiva.
Et en même temps, en tout cas pour ce qui est l'expérience de Zanon, tout ce qu'on a fait c'était une véritable école, à la fois une école pour nous, et quelque chose à travers lequel on a démontré ce dont les travailleurs étaient réellement capables, et ça c'est une expérience très importante.
Estuvimos invitados ayer en el Estado español, hace dos días, con los compañeros de la CGT de Cataluña y de la CGT de distintos lugares, que ellos van a lanzar una campaña de ocupación. Si hay despidos, ocupación. Nos parece una muy buena campaña.
Por ejemplo, hace dos días estuve en el Estado español, en Cataluña, y fui invitado por la CGT de Cataluña, y que está en train de lanzar una campaña justamente que dice. Face à tous les licenciements, dès qu'il y a un licenciement, il faut qu'il y ait occupation du lieu de travail.
Y después en el medio hay muchas discusiones y debates ideológicos, si es por esa vía al final, pero mientras hacemos esos debates ideológicos necesarios y peleamos, acción.
Évidemment, donc, on a été là-dessus de savoir comment est-ce que, quelles étaient les perspectives, les projets, comment ça allait se faire, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que par-delà les débats qu'on peut avoir, il faut de l'action à trouver.
Y con todo respeto por hablar sobre Francia así tan rápidamente, decir que los trabajadores en Francia ya han demostrado lo que son capaces de hacer en luchas enormes, como la de Goodyear, la de Continental, la de Olé, es impresionante. Entonces, toda esa energía que se ha puesto merece tener una perspectiva mucho más de fondo, y en eso creo que tenemos que aportar todos los que venimos de alguna manera acá, ¿no? Todos los militantes tenemos que aportar en darle a esa lucha una perspectiva más grande.
Et avec tout le respect, en tout cas, et pour dire deux mots par rapport à la France en tant qu'elle, avec la distance que j'ai, mais moi il me semble que les travailleurs français, les travailleurs en France ont déjà démontré que ce dont ils étaient capables. On a pu voir, y compris dernièrement, avant la Continentale, à Goodyear ou à Olé, mais il me semble que toute cette énergie justement qui s'est déployée, elle mérite d'avoir une perspective beaucoup plus large, et je pense que l'ensemble des militantes et des militants qui sont ici présents justement doivent s'engager pour apporter à cette perspective-là.
Los compañeros se han jugado mucho. Por ejemplo, el Continental con los despidos, yo sé, porque lo seguimos también desde Argentina con mucha atención, porque también durante muchos años desde acá a Europa se miraba mucho Latinoamérica, y ahora en Latinoamérica estamos mirando mucho Europa. Y entonces nosotros vimos cómo los compañeros de Continental, por ejemplo, dieron una lucha enorme, ocuparon la fábrica, tomaron de rehenes prácticamente a toda la construcción, a los gerentes y todo, una lucha durísima, ejemplar, pero después terminaba con la indemnización. Y es un problema, es un drama grande.
On a vu pendant de nombreuses années, en fait, c'était un peu l'Europe regardait vers l'Amérique latine et tout ce qui s'y pouvait s'y passer. Et en fait, à partir de 2008-2009, c'est l'Amérique latine, on a commencé à regarder du côté de ce qui se passait en Europe. Et on a pu suivre, en tout cas, que ce soit à Continental ou que ce soit ailleurs, dans les médias, on a pu suivre donc, les luttes qui avaient été menées, mais y compris les luttes avec cette station des patrons, des gérants, etc. etc. Et tout ça, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y avait réellement une énorme énergie qui avait été déployée, une grande combativité. Et néanmoins, au final, pour finir avec, sur la question des indemnités et des licenciements. Et ça, c'est vraiment le problème, c'est vraiment le drame.
Creo que tenemos que, humildemente también digo, que tenemos que aportar en cada paso, por pequeño que sea, pero que apunte a que los trabajadores somos una alternativa, creo que es muy valedero, tenemos que apoyarlo activamente.
Je pense que, je le dis encore avec beaucoup d'humilité, mais je pense que ce qu'on doit faire, c'est pas à pas apporter à tout instant justement à tout ce qui fait que les travailleurs puissent réellement se constituer comme une alternative, parce que les travailleurs en tant que tels, nous autres les travailleurs, on est une alternative.
Los resultados y la forma de una lucha a veces no es como nosotros quisiéramos, pero las luchas no vienen empaquetadas y con un moño, vienen imperfectas, pero ahí está nuestra responsabilidad de estar sobre el proceso. Yo lo que quiero decir es que hay que estar convencido de que los trabajadores y trabajadoras, cuando ven una alternativa más profunda, la toman en sus manos y la defienden con su vida.
Et moi, dans le même sens que par-delà les résultats des plus ou moins aléatoires des luttes en tant que telles, parce que les luttes, effectivement, c'est pas des jolis paquets cadeaux qui arrivent avec un nœud au-dessus, mais parfois elles sont imparfaites. Et je pense que la responsabilité de toutes et tous, c'est d'être présent dans ces processus et de porter une perspective, justement. Et il me semble que lorsque les travailleurs sont conscients qu'il y a une autre alternative, qu'il y a quelque chose de plus global qui est en jeu, ils sont capables de défendre les conquêtes avec leur vie.
C'est quand tu relates dans l'interview au magazine, quand tu parles de la mort du jeune camarade Daniel en 2000, ce qui est tragique dans cette histoire-là, c'est que c'est un camarade qui travaille et qui meurt dans son travail. Donc, moi, la première question, c'est comment la réaction de tes camarades a été juste après le décès de ce camarade qui est vraiment tragique. Et la deuxième question, pour moi c'est incroyable, c'est-à-dire que comment avez-vous fait pour tenir aussi longtemps avec toute cette pression de la direction de la Donne Plus de l'État? Les nuits devaient être très très courtes et je pense que le stress devait être très très élevé pour toi et tous tes camarades. En ce qui concerne comment se passe l'autogestion de Zanon depuis que vous vous êtes accaparé la production, arrivez-vous à avoir un salaire décent pour faire vivre votre famille? Et ma dernière question, ce sera 10 ans de lutte. Pour moi, c'est incroyable. À mon niveau, j'ai vécu la mienne il y a 2 ans, qui était de 4 mois. Moi, vraiment, je suis admiratif et je vois qu'une seule chose, c'est que la lutte, même si elle a été courte pour nous, elle a payé grâce à la convergence de tous les travailleurs et le soutien des élèves qui étaient très peu, mais au moins on voit que la convergence des luttes pour la solidarité entre les gens, c'est ça qui peut payer. Voilà.
Vous avez dit que vous n'aviez pas eu de soutien. Vous avez dit que vous n'aviez pas eu de soutien de la part des syndicats.
Vous venez puis vous tournez
toujours
les mots à la
seconde. Vous n'avez pas eu de soutien de la part des syndicats. Quels ont été vos soutiens politiques? En avez-vous eu? Et quels sont vos rapports aujourd'hui avec les organisations politiques en Argentine? Étant donné que ce que la lutte des Anonymes a transformé dans l'entreprise, si j'ai bien compris, c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui au Venezuela avec l'entreprise publique PDVSA qui réorganise totalement son travail pour apporter du service public en fait. Et au Venezuela, ça se passe par en haut, c'est le gouvernement qui décide que l'entreprise doit faire ça. Là, c'est les hommes, c'est les ouvriers qui ont décidé de le faire par eux-mêmes. Et c'est pour ça que, comme je sais que les relations diplomatiques entre Kirchner et Chavez et José Maduro sont très bonnes, je ne peux pas croire, enfin, je ne sais pas comment imaginer qu'il n'y ait aucun soutien politique en Argentine pour les Albanais. Et pour ce projet, pour cette idée de voilà, faire du service public plutôt que d'avoir changé. En attendant, comme Amid a fait la pub avant moi, du coup je vous signale la publication, la fameuse interview à laquelle Amid faisait référence, et donc c'est un des suppléments spéciaux là, qu'on a fait donc, de la revue Révolution Permanente, et justement dans laquelle vous avez tout ce que vous avez toujours voulu savoir, et vous ne savez pas encore, sur la vie des Annales, des interviews, des chronologies, des photos, et bien plus. Donc voilà, je vous invite à prendre la brochure avec les camarades.
Bonsoir à tous. Bah, déjà pour commencer, Raoul, je ne sais pas si Dali, mais en début de semaine, il est venu nous donner ses salutations à l'AG de d'Aulnay, et tous les grévistes ici présents et les autres grévistes ont été bien contents qu'ils viennent nous voir. Et sinon, ben, il a parlé qu'il a rencontré Continental, Goodyear et d'autres boîtes en Espagne. Il a dit aussi qu'il allait, enfin je sais pas s'il l'a dit, mais il m'a dit qu'il allait en Grèce, soit il y a été ou soit il va bientôt y aller. Donc il va faire des contacts pour porter l'idée de sa donne. Bon, ben, moi je profite de la tribune là pour dire que ben, maintenant il y a plein de boîtes qui vont fermer en France, en Espagne, en Grèce. Et maintenant, ce qui est dommage, c'est que quand une boîte est ferme, il y a le corporatisme des ouvriers de la boîte qui va se battre pour sa boîte. Et malheureusement, il ne va pas regarder la boîte du voisin. Et il y a le corporatisme des syndicats ou des organisations politiques qui vont essayer de diriger dans leur boîte et qui ne vont pas aller dans la boîte du voisin. Donc moi, je pense que maintenant, ce qu'il faudrait, c'est essayer d'unifier toutes ces luttes, peut-être par une manifestation, une rencontre, voilà, quoi, essayer. C'est toujours bien qu'il y ait des figures emblématiques du mouvement ouvrier comme Raoul qui rencontrent des boîtes. Ça crée des liens, mais maintenant il faudrait que chacun fasse un peu la même chose dans son coin. Voilà.
Et je me présente, je suis association d'abonnés du journal Mediapart. Et nous organisons des rencontres entre gens qui luttent à plusieurs endroits de France avec des gens qui viennent nous aider à lutter.
Sí, la primera pregunta de compañero alrededor de Daniel Ferraz significó como emblema para nosotros un punto de inflexión, porque verdaderamente los obreros se dieron cuenta que al patrón, al capitalista, no le importaba ni siquiera nuestra vida. Entonces, de ahí en más, hubo una unidad muy férrea dentro de la fábrica.
Pour ce qui est de la mort de Daniel Ferraz, donc ce jeune camarade donc, qui est mort à la chaîne en fait, dans un des ateliers de l'usine, ça a été un point d'inflexion important puisque donc, les ouvriers se sont rendus compte que les capitalistes, le patron, n'avaient strictement rien à faire de la sécurité de notre vie et ça a soudé énormément les travailleurs.
Les compagnies de la commission des mujeres qui étaient armées, des esposes et demás, se transformaient en leones. C'était impressionnant la force.
Et les camarades donc, de la commission des femmes, notamment, sont devenus de véritables tigres, sont devenus parce qu'elles nous appuyaient énormément.
Et disaient à la gente, disaient en los medios, en todos lados, disaient No puede ser que nosotros van nuestros hijos a la fábrica y no sabemos si vuelven enteros, si vuelven mutilados o si nos devuelven un cajón.
Y él dice notamment devant les médias, enfin là où elle pouvait intervenir, que c'était un constat que pour elle que leurs enfants aillent à part à l'usine le matin, et elles n'étaient pas sûres justement s'ils allaient revenir entiers, mutilés, ou tout simplement les pieds devant le soir à la sortie de l'usine.
Nosotros incorporamos a esa comisión de mujeres siempre un par de representantes para que entrara en cada negociación con nosotros.
Y muy sistemáticamente, y había des représentants de cette comisión de femmes qui étaient aux côtés des délégués élus en AG et qui participaient systématiquement aux négociations qu'on menait à différents niveaux, avec le gouvernement provincial, le patronat, etc. etc.
Y esto va de la mano con la segunda pregunta que me hacía: ¿cómo resistimos? Justamente las presiones, las amenazas, justamente esta era la fuerza moral que nos movía, saber que no estábamos peleando solo por nosotros, sino que estábamos peleando por una causa mucho mayor.
Y supongo que eso permite de responder a una pregunta que era cómo se hace para resistir a la presión, resistir a las amenazas, etc. etc. Y en fait, era el hecho de que on voyait bien que ce nos ha dado mucha fuerza moral enorme, en fait, c'était que no estábamos tout seul. On ne se battait pas seulement pour nous, mais quelque chose de bien supérieur.
Respecto de los salarios y la autogestión y nuestros sueldos, nosotros eso lo vamos resolviendo todo el tiempo en la asamblea. Tenemos muchas asambleas en la semana, pero hay una que se hace una vez por mes que se llama jornada, donde cada uno explica lo que se fabricó, lo que se compró, lo que se vendió, y lo que está bueno, que en esa planificación de la producción participan todos los actores. Es decir, estamos los que hacemos la producción, está el que compra, está el que vende, y entonces entre todos vamos viendo dónde se pone el dinero. Y siempre aspiramos a ganar más, pero los límites son los del mercado capitalista también.
Y pour ce qui est des salaires, en fait, ben ça, les salaires sont fixés en AG collectivement. Les AG, on en fait pas mal. Régulièrement toutes les semaines, il y en a une fois par mois, il y a ce qu'on appelle une journée. C'est une journée dans laquelle les équipes, en fait, les trois équipes se réunissent, ne travaillent pas ce jour-là. Et sur les 8 heures, en fait, on fait une grosse AG. Et donc l'ensemble des secteurs présents donc dans l'usine, en l'occurrence Raoul est en production, donc de production, vente, achat, donc se réunissent. Et dans cette AG, en fait, de planification de la production, il y a un bilan qui est fait, un bilan comptable, à la fois de ce qui est vendu, de ce qui a été acheté, de ce qui a été produit, de comment ça a été produit, de quelle qualité. Et ça permet justement que l'ensemble des acteurs participent à la planification, en fait, de la production. Mais bien entendu, la ligne principale, c'est le marché capitaliste, ça dépend pas de...
La production ne se discute, no la discute un burocrate en una oficina, sino que se discute en l'assemblée. Y el que está a veces haciendo esas propuestas, que está en un lugar, el día de mañana va a estar en la línea de producción, y el que está en la línea de producción en un futuro está en la oficina, porque esa es la rotación que hay de forma permanente.
Y de ce point de vue, ce qui est discuté, ce qui est décidé, c'est pas du tout un bureaucrate dans un bureau qui dit qu'il faut faire, mais c'est l'ensemble des travailleurs. Et pour ce qui est des camarades, parce qu'il y a quand même des bureaux, il y a quand même des camarades qui sont dans des bureaux, mais celui qui est dans un bureau, en fait, quelques mois plus tard, par le facteur de rotation, justement, il revient en production, et celui qui est en production passe au bureau. Et donc, du coup, c'est vraiment l'ensemble des travailleurs et des travailleuses qui décident.
Por último, respecto de la convergencia de los trabajadores y los estudiantes, eso que ustedes vivieron, para nosotros, bueno, es una unidad muy potente e indestructible, digamos, esa unidad estudiantil. Potentiellement, tiene muchísima fuerza.
Et par rapport à ce dont tu parlais à la fin, pour nous aussi, la question de l'unité avec les étudiants, c'est très très important, puisque la potentialité, la force potentielle de cette unité, elle est vraiment très grande.
Respecto de la pregunta sobre los sindicatos en Argentina hace muchos años que están divididos esencialmente en dos, CGT y CTA, pero en los últimos meses, en los últimos años, han estallado en 5 centrales sindicales.
Pour ce qui est de la question par rapport aux syndicats en Argentine, historiquement, parce qu'il y a un certain nombre d'années, en fait, dans les 90, que le mouvement syndical en Argentine est divisé en deux, avec d'un côté la CGT, qui est la centrale syndicale la plus importante, péroniste historique, et la CTA, qui est également péroniste, mais qui regroupe notamment les travailleurs de la fonction publique, plus qu'autre chose. Et là, au cours des derniers mois, en fait, il y a eu encore un phénomène d'explosion, et au sein de ces syndicats, il y a eu d'autres dissidences qui se sont créées. Et donc aujourd'hui, il y a 5 courants, on va dire, syndicaux, plus ou moins officiels, plus ou moins certains officialistes, soutenant le gouvernement, d'autres soutenant l'opposition.
Nosotros damos una pelea permanente para recuperar a nuestros sindicatos, por lo que dije antes, porque los sindicatos no le pertenecen a los burócratas, los sindicatos son de los trabajadores. Entonces es una pelea permanente para recuperar los grandes sindicatos. Pero mientras tanto buscamos la coordinación entre todas las comisiones internas, cuerpos delegados y todo, para ir haciendo un frente único común. Exigimos, pero a la vez no nos paralizamos esperando, sino que también vamos a acciones cuando vamos pudiendo hacerla cotidianamente.
Cinq structures syndicales plus ou moins voilà, formelles, et donc certains plus le gouvernement, d'autres l'opposition, mais toutes dirigées par des bureaucrates syndicaux. Mais nous, ce qu'on a toujours posé, en tout cas, c'est que ce qu'il faut, c'est que même si ces syndicats sont en main des bureaucrates, hein, c'est pas ça qui va nous arrêter, il faut exiger justement d'eux qu'ils prennent en tout cas un certain nombre de positions, mais c'est pas ce qui doit nous paralyser, c'est-à-dire qu'on ne doit pas seulement se contenter d'exiger en général. Mais au contraire, ce qu'on a lancé, c'est un mouvement de coordination par en bas, justement des commissions internes, c'est-à-dire des structures syndicales d'usines d'entreprise, qui représentent donc les syndicats au niveau d'entreprise, syndicats uniques, ou de corps de délégués, c'est-à-dire de délégués syndicaux qui sont élus par atelier, par machine, par secteur, donc, ouais, dans telle ou telle entreprise, donc du public, du privé, du tertiaire ou du secondaire, de façon à créer justement les conditions d'une coordination par en bas.
Par exemple, pasaron 10 años de gobierno peronista en el que ninguna de las centrales tomó ningún paro. Un paro general no había habido en Argentina donde 10 años no hubo. Y nosotros hubo una convocatoria hace poco de 2 de las centrales y nosotros aprovechamos esa convocatoria para organizar y para que todos los trabajadores que peleamos en cada una de nuestras fábricas nos juntemos en la calle aprovechando ese lugar para encontrarnos verdaderamente los que queremos pelear hasta el final. Aprovechamos la convocatoria que hace la burocracia, la tomamos en nuestras manos con nuestras propias demandas y utilizamos esa cobertura, ese llamado, para unirnos también desde abajo con las demandas propias desde la base misma.
Par exemple, donc, au cours de 10 ans de gouvernement péroniste en Argentine, donc depuis 2002, il n'y avait pas une seule grève générale qui avait été appelée, pour montrer la collusion entre les centrales syndicales et le gouvernement. Et là, donc, dernièrement, il y a eu 2 centrales qui ont appelé à une grève générale. Donc, évidemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé ces deux dates, ces deux appels pour descendre dans la rue. Pour descendre dans la rue, pas simplement nous, mais l'ensemble des secteurs qui potentiellement pouvaient être mobilisés, et surtout également pour porter nos propres revendications, ce que la base justement pouvait défendre, et en posant la question que justement nous on descend dans la rue, on était en grève, donc ceux qui voulaient aller jusqu'au bout justement dans la grève et pas simplement faire une grève de pression.
L'année passée, le 18 de novembre, c'était le premier paro national que convocaron 2 centrales. Contra el impuesto a las ganancias, que esto es que a los trabajadores si cobran un salario superior a 6.000, 7.000 pesos, que no es tanto dinero, te descuentan el impuesto como si fuera un negocio y no fuera tu salario, por ejemplo. Entonces fue uno de esos puntos. El otro punto, bueno, contra los cierres y los despidos, y no me acuerdo cuál era el tercero, la demanda, pero consideramos que era una demanda justa, y nosotros tomamos con todas esas banderas. Y bueno, salió todo el sindicalismo de base, el sindicalismo clasista, ese día a manifestar, hicimos corte de ruta en distintos puntos del país, hicimos visible la situación de toda la precarización laboral que hay en Argentina, en la que la mitad de los trabajadores trabajan en términos precarios.
Y por ejemplo, hay eu el 18 novembre 2012, donc il y a eu donc cette grève générale qui a été appelée, donc il y avait 3 revendications qui nous semblaient justes, qu'on a justifiées. Donc d'abord, c'était contre l'impôt sur les profits que voulait mettre en application Kirchner, donc impôt sur les profits qui concernait y compris les travailleurs, mais en plus de 7000 pesos, qui n'est pas des masses en fait non plus en Argentine, comme si c'était des affaires, en fait, comme si c'était des petits patrons. Également donc des revendications contre les fermetures et les licenciements, donc le troisième point, le camarade s'en rappelle pas, mais il nous semblait en tout cas que c'était donc 3 revendications qui étaient justes, et ça nous a permis d'appeler à mobiliser sur la base du syndicalisme de classe, du syndicalisme combatif, du syndicalisme de base, je vais expliquer après ce que c'est, avec justement en posant nous-mêmes, donc avec notre propre moyen, c'est notamment avec des blocages, des coupures de route, mais en posant également la question de la précarisation du travail, de la situation des précaires, puisqu'aujourd'hui, en Argentine, la moitié des travailleurs sont embauchés dans des conditions précaires de précarité.
Porque se hace un largo cada vez más. Pero bueno, ahí ha surgido con esta atomización de los sindicatos, que hay cinco centrales, que muchos trabajadores tienen que salir a la lucha por su cuenta, ha surgido un movimiento sindical de base, muchas fábricas y lugares, por ejemplo, en industrias grandes, que antes no siempre había mucho control burocrático, han surgido comisiones internas, cuerpos delegados combativos y clasistas, por ejemplo, todo en la industria de la alimentación, hay fábricas importantísimas, como Kraft Rabus y PepsiCo, con miles de trabajadores que se han empezado a organizar y coordinamos acciones a nivel nacional. Por ejemplo, en algunas automotrices también, cuerpos delegados de automotrices en Córdoba, por ejemplo, en el Parque Industrial de Neuquén, Sanón es un gran aglutinador también de comisiones internas del Parque Industrial en el que participan papeleros, textiles, y tratamos de hacer acciones en común, de forma independiente, si exigimos algo, pero también tenemos nuestros propios pliegos de demanda y es una buena cobertura cuando hay un llamado nacional para tomar nuestras propias demandas, fortalecernos y mirarnos en la cara entre los trabajadores, lo que hace una huelga, ¿no? Que podamos sentir esa fuerza social que significa los trabajadores en la calle.
Mais également par en bas, le surgissement de l'apparition, la naissance d'un syndicalisme combatif, y compris dans certaines entreprises qui jusqu'à présent étaient dans lesquelles le contrôle bureaucratique, le contrôle syndical était extrêmement fort des péronistes, hein, et avec justement donc, des commissions internes, donc des syndicats de base combatifs qui ont été récupérés des mains de la bureaucratie, notamment dans l'industrie de l'alimentation dans la périphérie nord de Buenos Aires, à PepsiCo, à Kraft, à Perabussi, et donc avec des milliers de travailleurs justement qui s'organisent, c'est ce qu'on appelle en Argentine le syndicalisme de base, et qui se coordonnent évidemment, et nous avons Raoul est toujours très très humble et modeste par rapport à l'homme, mais c'est eux qui sont en tout cas un des piliers de cette structuration justement politique et syndicale à travers notamment un journal qui s'appelle Notre Lutte, Nuestra Lucha. Et dans le cas de Zanon, justement, c'est Zanon, enfin, sur le parc industriel, c'est une sorte de pôle qui attire l'ensemble des secteurs combatifs, donc travailleurs du textile, de la pâte à papier, du secteur agricole. Et évidemment, l'enjeu, c'est de s'organiser, de profiter de toutes les journées d'action qui sont appelées de façon à mobiliser, mais également sur une base parfaitement indépendante, justement, à partir de leur propre revendication.
Et le dernier, en respect aux syndicats, que no se trata solamente de una discusión ideológica o una discusión de intercambio de opiniones. En muchas fábricas y todo eso, la burocracia se organiza y nos rompe la cabeza. A las corrientes de izquierda o al sindicalismo de base. Por ejemplo, sindicatos ligados al gobierno nacional de Cristina Kirchner, por ejemplo, que están en el mismo proyecto, no solo nos han golpeado o han salido a reprimir el mismo huelga, han asesinado a compañeros. Está el caso del compañero asesinado, que era un militante del Partido Obrero, que estaba junto a los trabajadores ferroviarios, Mariano Ferreira, y fue asesinado por gente armada de la burocracia sindical. Ese mismo burócrata que hoy está preso, hace unos meses atrás compartía la tribuna con Cristina Kirchner hablando de los derechos humanos. Hoy está preso por asesinato de un compañero.
Mais ça, c'est pas une question, c'est pas un débat purement idéologique, parce qu'il faut savoir que la bureaucratie syndicale en Argentine, justement, quand nous on essaie de s'organiser, quand on essaie de reprendre les syndicats, quand on essaie de se battre politiquement, elle nous répond par l'agression physique, en tout cas sans la figure, et pas simplement en nous frappant, y compris, il y a le cas du camarade Mariano Ferreira, qui était un jeune militant du Parti ouvrier, d'une vingtaine d'années, qui militait aux côtés des cheminots d'une des lignes qui part de Buenos Aires, et qui a été froidement assassiné par balle par la bureaucratie syndicale de Pedraza, qui est un type qui aujourd'hui est en tôle depuis quelques mois, mais il y a au mois d'août, au mois de juillet, on le voyait encore donc à la tribune avec Cristina Kirchner, donc voilà, parler des droits de l'homme, donc les courants politiques qui aujourd'hui soutiennent Kirchner au gouvernement. Dans les syndicats sont les mêmes qui nous frappent, qui nous empêchent de nous exprimer et qui on dit 10 000.
En el último año que esto tampoco tiene mucha repercusión mediática, han asesinado a 16 militantes sociales en Argentina, a hermanos Com, a pueblos Com, en localidades que son pueblos originarios de otras provincias, por pelear por un pedazo de tierra para vivir o pelear por un defendiendo un pedazo de tierra para poder producir. Han sido asesinados directamente por policías provinciales o por gente de la burocracia sindical. Eso pasa hoy en la Argentina.
Et au cours des dernières années, et ça c'est ce qui se passe en Argentine aujourd'hui, il y a 16 militants du mouvement social qui ont été assassinés donc, par la police, par la police fédérale, la police provinciale ou par la bureaucratie syndicale, donc, notamment par exemple des militants de la communauté indigène Com, donc des peuples originaires de Patagonie qui luttaient pour défendre leur terre ancestrale.
Notre internationalisme, notre conception de internacionalismo no se trata solamente de viajar a Europa a hacer charlas, sino también, por ejemplo, fue venido al Parque Indioamericano, un lugar donde hubo una toma de miles de familias de hermanos bolivianos, paraguayos, peruanos, que nadie quería defender. Nosotros fuimos hasta ahí, tuvimos choques con la policía, pero ahí asesinaron a 5 compañeros bolivianos, peruanos y paraguayos, pero a nadie le importó, no salió ningún medio porque total eran inmigrantes. Et c'est une brutalité.
Pour donner un autre exemple de notre internationalisme qui ne se limite pas simplement à faire quelques voyages en Europe parfois, donc il y a un an et demi, 2 ans maintenant, il y a eu donc un cas qui après a détruit la chronique, mais qui a été donc l'assassinat de 5 squatteurs, on va dire, donc habitants d'une sorte de bidonville qui étaient dans un des parcs de Buenos Aires, Parque Indioamericano. Qui avait été assassiné, et donc sans que personne ne s'en préoccupe, puisqu'en fait la plupart des occupants, la plupart des squatteurs, c'était des frères et des sœurs donc, de Bolivie, du Paraguay et du Pérou. Et notre conception d'internationalisme, justement, ça a été de, donc nous autres, donc les secteurs du syndicalisme de base, d'aller manifester à leur côté, et y compris d'affronter la police, parce qu'il y a des affrontements assez violents, assez durs, d'affronter la police justement, et d'être à leur côté contre la répression et contre le racisme à leur égard.
Y por último, sí, por otro lado, el planteo del compañero alrededor del proceso en Venezuela y demás, nosotros somos muy respetuosos del proceso del pueblo, de lucha, del proceso de lucha del pueblo venezolano. Ahora, mi compañero había planteado que, por ejemplo, el proceso en Venezuela de las fábricas, donde se han hecho experiencias, que digo que nosotros somos muy respetuosos del proceso de lucha del pueblo venezolano. Pero no es nuestro modelo el hecho de la forma que le han dado. Cuando hay intervención mixta en una fábrica, ese mixta que hay obreros y funcionarios, lo que pesa es el funcionario. Y el obrero termina siendo un empleado más. Aunque te den la palabra, pero el que explota es otro.
Por ce qui est des formes, en tout cas, d'organisation qui a pu avoir y qui est encore aujourd'hui au Venezuela, avec une forme extrêmement respectueuse par rapport à la façon dont le processus au Venezuela c'est. En tout cas, a lieu, mais il nous semble en tout cas le modèle vénézuélien n'est pas le nôtre, et notamment dans les entreprises dans lesquelles il y a une sorte de co-gestion mixte entre les travailleurs et les bureaucrates de l'État, du gouvernement, et dans ces cas-là, en général, la co-gestion, c'est pas la même, on a beau donner la parole au prolo, c'est toujours le bureaucrate qui finit par décider de ce qui se fait et de ce qui se fait pas. Lorsqu'on met de côte à côte un patron et un ouvrier,
Por eso, aunque nosotros no hayamos conseguido todo lo que peleábamos, sí tenemos claro lo que queremos y tenemos claro lo que no queremos.
Y de ese punto de vista, si no hemos ganado, en todo caso, no hemos réussi a hacer todo lo que queremos, lo que sabemos precisamente es lo que queremos y lo que no queremos.
Y la última respuesta tiene que ver también combinando las dos, por la que la compañera decía, porque. Para nosotros es un drama en Salón la renovación tecnológica, la renovación de maquinaria, porque han sido 11 años de resistencia, pero compitiendo con capitalistas que tienen créditos, que tienen dinero, que renuevan maquinaria, y nosotros estamos todavía al día de hoy con vieja maquinaria, y es un drama.
Pour ce qui est de la dernière réponse donc de la camarade, pour nous c'est un drame la question de la rénovation technologique des machines, puisque donc, pour nous on a mené 11 ans de résistance, donc sur les lignes de production il y en a plus de 13 phrases à l'homme, il y en a pas qui sont très modernes, qui étaient modernes en 2000, mais qui ne sont plus, les autres sont super vieilles, et donc ça a été pour nous extrêmement compliqué, parce qu'on est en concurrence avec des entreprises qui ont, elles, accès au crédit, qui ont pu rénover justement les machines, qui ont pu investir, et c'est pas notre cas.
Por ejemplo, del Salón, al lado hay otra fábrica de cerámicas que está en la órbita de nuestro sindicato, pero está bajo patrón. A ese patrón le han dado 5 millones de euros para que renueve toda la maquinaria, por ejemplo, y con una línea de producción hace lo mismo que nosotros con 9 líneas. Es imposible competir.
Et par exemple, juste à côté de notre usine, il y a une autre usine qui produit des carrelages et des revêtements dans laquelle les travailleurs sont affiliés à notre syndicat. La liste est majoritaire, mais bon, c'est sous patron en tout cas. Et donc le gouvernement provincial et national leur ont concédé un prêt de 5 millions d'euros, enfin sont portés garants pour un prêt de 5 millions d'euros, qui leur a permis donc, de rénover l'ensemble du matériel et des machines, et eux, avec une seule ligne, ils produisent autant que nous, donc avec notre ligne de production.
Por eso en las últimas movilizaciones que han habido en la provincia, con huelgas de docentes, huelgas de estudiantes, han habido movilizaciones, Sanón también se ha movilizado con sus propias banderas, exigiéndole al gobierno provincial y exigiéndole al gobierno nacional créditos blandos para que se garanticen todos los puestos de trabajo en todas las fábricas y empresas recuperadas, incluyendo Sanón.
Et donc c'est pour ça qu'au cours des luttes qu'il y a eu, notamment de la grève enseignante, la fédure qu'il y a eu ces deux derniers mois dans la province de Minkel, donc les travailleurs de Zanon se sont mobilisés, donc étaient en grève également. En exigeant, une de nos revendications, c'était notamment que le gouvernement provincial et national nous donne accès à des crédits, justement, les crédits à 0% et les crédits flexibles. De façon à ce qu'on puisse justement rénover l'ensemble des machines, pas simplement sur Zanon, mais également dans le reste des entreprises récupérées, qu'elles soient dans des coopératives, qu'elles soient au plus proche du gouvernement, mais qui aujourd'hui continuent à fonctionner, même s'il n'y en a pas 300, mais continuent à fonctionner en Argentine.
Y el planteo es ese, los trabajadores lo han hecho ya demasiado, han mantenido la fábrica en marcha, han duplicado los puestos de trabajo, han trabajado con la comunidad, le exigimos al gobierno las garantías para poder seguir trabajando y no que la crisis siempre la terminemos pagando a los trabajadores. Y eso es lo que nos hermana al resto de los trabajadores.
Y nos han dicho justamente que los trabajadores on a doublé el nombre de postos de trabajo, porque al origen cuando los camaradas han comenzado a resistir, c'était 200. Aujourd'hui, il y en a 400 en usine. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé avec la communauté, ils travaillent avec les hôpitaux, les crèches, etc. etc. Et de ce point de vue-là, ils revendiquent que le gouvernement garantisse les postes de travail, justement, leur permettre de travailler et de s'en rendre compte dans la question du chômage, des emplois est important. C'est fini, dit-il.
Muchísimas gracias, merci.
De tout.